Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est le deuxième épisode aujourd'hui de l'affaire Salif B, une enquête d'Adila Benedjaizou. Salif B est sénégalais, il est arrivé en France il y a 2 ans. Après 1 an environ, il vit à Bayonne, hébergé par des réseaux solidaires. Il est accusé de viol et chassé du Pays Basque par 5 jeunes femmes, des bénévoles qui aident les migrants. Ça s'est passé comme ça. La première, Noémie, donne rendez-vous à Salif dans Bayonne et l'emmène devant un café associatif où le collectif a ses habitudes. Puis 2 femmes qu'il ne connaît pas demandent à Salif de les aider à porter un meuble dans le café pour l'inciter à rentrer. Mais Salif refuse car il s'est blessé au football. L'idée ratée, c'est de lui régler son compte à l'intérieur. Alors, selon plusieurs témoins, un groupe de personnes sort du bar et accuse Salif d'avoir violé plusieurs jeunes femmes sans toutefois les nommer explicitement. Il se défend, il y a des cris, du bruit, beaucoup d'agitation. La plus véhémente et qui porte les accusations s'appelle Coralie. La plus discrète, Lucie, est restée à l'intérieur du bar. L'une d'entre elles est en larmes. Elle s'appelle Cathy. Et enfin, il y a aussi une certaine Marianne, la plus calme du groupe. D'après plusieurs sources, ces femmes sont accompagnées d'autres personnes, dont au moins 2 hommes, qui forcent Salif à rendre les clés de l'appartement où il vit et qu'il garde dans sa poche. À la fin, Coralie tend à Salif un billet de train pour Paris, lui ordonne de partir et de ne plus jamais remettre les pieds au Pays Basque. Cette engueulade musclée, en pleine rue, finit par attirer des policiers qui emmènent Salif avec eux au commissariat, s'assurent qu'il n'y a aucune plainte pour viol qui a été déposée contre lui et le relâchent. Les accusations portées contre Salif sont graves, mais les versions vont varier. Ce jour-là, en tout cas, il est accusé d'avoir violé 4 femmes, dont 2 mineures. Il faut préciser que ce jour-là encore, aucune des 5 femmes qu'il accuse devant le bar ne déclare figurer parmi les victimes. Elles disent ne pas nommer les véritables victimes des viols pour les protéger. Elles parlent et agissent en leur nom. Salif quitte donc la ville pour Paris, d'où il décide de partir en Allemagne. C'est là qu'Adila Benedjaizou est allée le rencontrer. C'est l'affaire Salif B, épisode 2, peut-on se faire justice soi-même? Une série réalisée par Clémence Gross.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mesdames, Messieurs, bonjour. SNCF et la Deutsche Bahn vous souhaitent la bienvenue à bord de ce TGV à destination de Francfort. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pour aller de Paris à Francfort, j'ai fait 4 heures de train et ça m'a coûté 100 euros. Soyons clairs, je vous parle là du monde d'avant le confinement, quand il n'y avait plus de frontières en Europe. Enfin, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Car Salif, le migrant que je vais voir là-bas, a mis plus de 24 heures pour faire le même voyage. Il a pris un bus jusqu'à une ville frontalière avec l'Allemagne. Il a versé 300 euros à des passeurs qui lui ont fait franchir la frontière en voiture. Puis, il est remonté dans un train jusqu'à Francfort. Si Salif a fait tout ce chemin, c'est parce qu'il a été chassé du lieu où il vivait. 5 femmes l'accusent d'avoir violé plusieurs de leurs amis et lui ont ordonné de quitter le Pays Basque pour ne plus y revenir. Et si moi j'ai fait tout ce chemin, c'est parce que cette histoire de viol et de condamnation collective me taraude. Salif est-il coupable? Ces femmes avaient-elles raison d'agir ainsi? À force d'entendre parler d'elles sans les rencontrer, elles me hantent et je leur ai distribué des adjectifs qui correspondent à l'image que je me fais d'elles. Il y a Coralie, la coléreuse, Lucie, la discrète, qui vit dans l'ombre de Coralie, Marianne, la douce, Cathy, la mystérieuse, et Noémie, l'intraitable. Aucune d'elles n'a accepté de me parler, et j'ai du mal à me faire une opinion sur leur acte. Après tout, si Salif est un violeur, se réunir pour lui faire peur et le chasser ne paraît pas être une punition très sévère. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des cas où il est légitime qu'une femme se fasse justice elle-même? J'ai rencontré Caroline, une jeune femme qui, il y a quelques années, a décidé de punir seule un homme qui l'avait agressée en pleine rue.
Donc je remontais la rue Montorgueil et c'était un soir vers Noël où il faisait très très chaud. Donc il y avait énormément de monde en terrasse. Il faisait quelque chose comme 15 degrés, ce qui était impressionnant. L'ambiance était à la fête gentille, quoi. Et je marche environ 10 mètres sans trop regarder devant ou autour de moi. Et là, je sens deux mains m'attraper les seins. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était arrivé par-dessus moi et qui m'avait agrippé. Et en fait, j'ai attrapé ses mains, ça a été un geste réflexe. Je l'ai basculé en fait sur mon épaule droite. En le basculant, il a trébuché sur un trottoir, sur un petit trottoir de la rue Montorgueil, sur le côté, et il est tombé. Donc je me suis doutée qu'il était un peu alcoolisé, on va dire. Moi, je l'estime entre 55 et 60 ans. Il avait les cheveux blancs, mais assez dégarnis. Physiquement, il avait l'air d'un petit monsieur gentil sans histoire. Et donc là, je commence à lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Je crois que les femmes sont en libre-service, je me souviens avoir dit ça. Il s'est mis en boule, en position donc de victime. Enfin, moi, ce que j'aimais, en tout cas en position de défense. Et il s'est mis la tête entre les mains maltraité ou un animal, voilà. Et j'ai pas du tout aimé son renversement de rôle comme ça. Et ça, ça m'a vraiment fait voir rouge. Et là, donc moi, j'ai vraiment vu deux chemins en face de moi, comme deux voies, on va dire. La voie de gauche, je ne sais pas pourquoi c'était celle de gauche, c'était la voie légale. Appeler la police, qu'il le coffre, et le procès au tribunal de grande instance. Et ça, en fait, ça m'était déjà arrivé quelques années auparavant. Donc je connaissais cette voie-là. Et la première fois, elle m'a beaucoup aidée. Et la voie de droite que je voyais, c'était l'immédiateté. Mais en fait, il y avait une rage en moi qui demandait qu'à sortir. Et donc, j'ai vu l'opportunité de la faire sortir. Et là, en fait, j'ai commencé à le frapper. Enfin, à lui donner des coups de pied. Dans la tête, dans le buste, en fait, dans les couilles. Peut-être même un peu dans les jambes. Je suis sûre de l'avoir blessé parce qu'il y avait du sang qui provenait, je pense, de son nez, mais en tout cas de son visage. Je l'ai roué de coups comme ça en continuant à lui dire que c'était pas normal ce qu'il avait fait et de pas toucher les femmes comme ça. Voilà. C'était comme si j'avais envie que mes pieds lui fassent rentrer dans la tête mes mots. Mais il disait rien et il m'a laissé l'opportunité de lui vomir toute ma rage au nez, quoi. D'ailleurs, je lui ai craché dessus, au passage. C'était lancé pendant un petit moment, quand même. C'était pas juste trois coups de pied, c'était... Je les estimerais autour de 50. Un truc comme ça. 50, 60, 70, je sais pas. Je crois que je l'ai enjambé, quoi, ou j'ai dû le contourner. Et je suis rentrée chez moi d'un pas assez décidé, assez rapide, en tremblant. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments complètement contradictoires qui sont arrivés en moi. Donc à la fois ce soulagement, en fait, cette haine déversée. En même temps, il y avait la culpabilité, parce que je me suis dit... C'est quand même super bizarre. C'est la première fois que je rencontre un agresseur qui se met en boule. Et j'ai commencé à me dire, merde, mais si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est handicapé mental. Comme j'ai mon neveu qui est aussi handicapé, je sais qu'ils n'ont pas la même réalité. Et j'aurais probablement pas réagi de la même manière. Et en même temps, il y avait la fierté qui était là. Il y avait la fierté de m'être rendu justice moi-même. Il s'en est bien mangé et c'est tant pis pour lui. Et d'ailleurs, il a pris pour tout le monde. Il a pris pour tout le monde. Tous les hommes qui ont eu une réaction déplacée envers moi, c'est le frotteur du métro quand j'allais au collège. Et c'est un mec qui, à 14 ans, m'a proposé 300 francs pour me dépuceler, par exemple. C'est quelqu'un qui m'a violée quand j'avais 17 ans, où là, j'avais pas porté plainte. Moi, j'avais 17 ans, il en avait 21 ou 22, je pense. C'est quelqu'un qui était mon petit ami à l'époque, depuis un an et demi. Et j'ai choisi de ne pas porter plainte. Enfin, j'ai choisi. J'ai pas vraiment choisi, je pense, mais à l'époque, c'était pas une possibilité pour moi, dans ma tête. On était à la boule. Et arrivé au soir, j'étais complètement crevée entre les nuits blanches, la plage et tout. Enfin, on faisait quand même pas mal de trucs. Et en fait, j'étais épuisée dans ce lit. Et on n'avait pas bu de mémoire. Et donc, il a commencé à, à venir me voir hein, et à vouloir me faire des câlins et tout ça, et à vouloir coucher avec moi. Et donc, moi, je lui ai dit, non, en fait, je suis complètement crevée, mais entre deux... presque entre deux soupirs de sommeil, quoi. Il commence à être en érection, à se frotter contre moi. Je lui dis, non, en fait, j'ai pas envie. Et donc, je me souviens qu'il y avait un grand lit. Je me reculais un petit peu, j'avançais, en fait, de côté, quoi. Je me décalais, il décalait un petit peu, je pense, 10 cm en 10 cm, en disant non, non, et en poussant vers ce coin à gauche. Et jusqu'au moment où je me suis retrouvée au bout du lit. Avec le vide, en fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu ce trou, en fait, ce vide autour du lit comme... je sais pas. Comme un point de... Il n'y a plus le choix, en fait. T'es coincé. Et il en a profité pour me monter dessus et me violer. A priori, ne comprenant pas ce qu'il faisait, l'erreur qu'il faisait. Puisque au milieu, il m'a dit un truc comme « Bah, d'habitude, t'es plus active. » Enfin, voilà. Après, c'était vraiment le scénario le plus classique qu'on peut voir dans la télévision. J'avais un besoin urgent de filer à la douche. Et là, je me suis mise à pleurer. Il me semble un peu à me griffer aussi. Et en ressortant, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que t'as fait ? Et donc là, il est tombé à genoux, il s'est dit, oh, je suis désolée, pardon, excuse-moi. Et c'est là qu'il a compris, mais je l'ai revu, je pense, deux fois, puisque c'était une relation à distance. On a à nouveau couché ensemble. Parce que je voulais pas y croire et je voulais pas. Je pense que je voulais minimiser la situation et me dire mais non, t'as rêvé, c'était une petite erreur de jugement de sa part, réessaye un coup, mais si tu l'aimes, ou ce genre de truc en fait.
Quelle satisfaction vous avez trouvée en frappant cet homme à terre que vous n'aviez pas après le procès que vous avez eu contre un premier agresseur ?
Ce que j'ai trouvé que j'avais pas eu, c'était ce côté pouvoir. Quand j'ai porté plainte et que ça s'est passé selon les règles de l'art, j'ai remis mon pouvoir à la justice en disant « Coucou, je suis victime ». Alors que là, cette fois-ci, c'était moi qui étais entière juge. Et c'était à moi de donner la peine, finalement. Je savais bien que je récupérerais pas d'argent. C'était une compensation différente. C'était pas sous forme monétaire, mais c'était sous forme de violence, quoi. Sous forme de coups. Maintenant, je sais que je suis capable de tabasser un mec. Moi, je pensais pas en avoir la force physique, la force mentale, la force, etc. Donc... je sais que j'en suis capable et ça me donne une arme supplémentaire.
Garder le pouvoir, se donner des armes supplémentaires. Moi, ça me parle. Ça me parle d'autant plus que même si ce n'est pas le cas de Caroline, on sait que les femmes ont du mal à obtenir réparation d'une agression sexuelle dans un tribunal. Les chiffres sont tristement célèbres. Environ 10% des viols font l'objet d'une plainte et 10% de ces plaintes seulement aboutissent à une condamnation. Est-ce que c'est ça qu'ont fait les femmes qui ont chassé Salif ? Est-ce qu'elles ont décidé de remplacer un système judiciaire défaillant ?
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va. Et vous ?
Tranquille, ouais.
Bon, ravi de vous rencontrer enfin.
Ouais, moi aussi.
Quand il a quitté le Pays Basque, Salif, qui est sénégalais et sans papier, avait le choix entre... aller dormir dans la rue à la Chapelle ou bien partir pour l'Allemagne.
D'accord.
Quand ils sont ici, c'est fini. Mais de l'autre côté ?
Là-bas, à la différence de la France, tous les exilés sont hébergés par l'État.
Tous les bâtiments là-bas ?
Ils sont donc assurés de ne pas dormir dehors.
C'est comme une prison. Avant de sortir, il faut
présenter la carte. Mais en contrepartie, ils sont extrêmement surveillés.
Il faut passer par plusieurs postes avant de sortir. C'est quelle histoire ça? On n'a pas de liberté là.
Alors qu'on s'éloigne du campo, qui ressemble effectivement plus à une prison qu'à un lieu d'hébergement, Salif me donne sa version de l'histoire. Il prétend qu'il était très ami avec toutes ces femmes, Coralie, Marianne, Noémie, Cathy. Mais il y en a une en particulier qui a fait battre son cœur, c'est la discrète, Lucie. Et il me raconte leur rencontre.
Il y a un jour, j'étais chez moi avec mon pote Kambal. J'étais en train de cuisiner. Et il y a Coralie qui m'appelle. Qui me dit, bon voilà, je suis là, j'ai quitté la campagne. Si tu veux venir, on va boire un coup au bar des Pyrénées. On est arrivé au niveau des bars. On est assis, nous trois. Moi, Coralie et Lucie. On cause. Il y a Lucie qui me dit, bon Salif, maintenant je suis à Bayonne. J'ai pris un appart à Petit Bayonne, je suis là. Mais après, je vais te le montrer, je vais te le faire visiter. On a resté là-bas pendant 2 heures et quelques. Il m'a dit, bon, oh, allons chez moi, je vais profiter, je vais te montrer chez moi. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, comme tu veux. Donc, on est là à boire, à fumer des cigarettes. On est là, après, elle a fait sortir son ordinateur portable. Elle m'a dit, on va regarder des séries. Elle a dit, j'ai une autre, c'est une nouvelle série, c'est cool. Casa de Papel. Là, on regarde, on ne voyait même pas le temps qui passe. En ce moment, c'était comme un coup de foudre, quoi. Il y avait l'amour qui est rentré, quoi. Moi, j'étais un peu attiré. Mais je ne sais pas pour elle si c'était amusement ou pour elle si c'était pour utiliser seulement, je ne sais pas. Mais je voyais comme elle sentait quelque chose envers moi, quoi, comme si c'était elle m'aimait, quoi. Ma France m'a parlé. J'étais heureux. Je vois l'heure qui passe. Je dis, oh putain, il faut que je rentre chez moi. En me levant comme ça, il me dit, mais Salif, il faut dormir ici. Et je la regarde, je dis, comment? Je dis, mais je ne peux pas passer la nuit chez toi, regarde comment je suis. Donc je n'ai même pas les habits pour dormir. Donc, et puis moi, je ne suis pas habitué de dormir comme ça. Et là, elle me dit, lève-toi, aide-moi d'étaler. Je dis, bon, on étale quoi? Le canapé. Elle a étalé le canapé, c'est devenu lit. Je dis, oh, ok, c'est un canapé de place. On est couché. J'ai mis comme ça mon bras. Elle a mis sa tête comme ça, sur mon bras. On parlait comme des vrais amoureux. De foot, on parlait de son job. Elle vient d'arriver, elle était contente de venir à Bayonne parce qu'à la campagne là-bas, elle était fatiguée, ceci, c'est ça. Après, on commence de s'embrasser. Moi, elle, pour l'affaire a répondu, on a fait l'amour. Quand on a fait l'amour, c'est fini. Elle s'est levée, elle est rentrée dans la douche et s'est lavée. Moi, je ne me suis même pas levé. Je me suis dormi comme ça jusqu'à le petit matin. Tellement j'étais heureux. On a resté dans la chambre, environ 13h, 14h comme ça. On a resté là-bas à fumer, à causer encore. Et on regardait les mêmes séries encore. Il y a l'heure de l'entraînement est arrivée, 18h, 19h comme ça. J'ai dit, hop, il faut que je parte parce que je dois aller m'entraîner. Elle m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand j'ai fini à 21h et quelques, elle m'envoie un message. Elle m'a dit, t'as mangé? J'ai dit, non, je n'ai pas encore mangé. Et toi? Elle m'a dit, non, je n'ai pas mangé. Donc, je peux faire des salades. Après, on va manger. J'ai dit, d'accord, ça marche. Du coup, je viens, il n'y a pas de problème. Les messages sont là. Et on causait tranquillement, on mangeait aussi des cacahuètes comme ça à gauche à droite, et on regardait la même film aussi. On fait la même chose, on étale notre lit, on cause, on refait la même chose. Et le deuxième jour même, comme le premier jour, on était tellement pressé pour faire l'amour, mais le deuxième jour, on a pris notre temps, et on a bien discuté, et puis on a fait l'amour 2 fois dans la nuit. Le lendemain, elle s'est réveillée très tôt. Elle est là se maquiller pour sortir. Moi, je l'attends pour l'accompagner. Et je lui dis, viens, on va prendre une photo. C'est celle-là. Comme ça, j'aurai des souvenirs. Et elle part au village. Elle m'avait dit que je vais revenir samedi. Et quand elle est venue, je l'appelle. Je l'avais appelée, elle m'a dit, je suis à Paris. Je viens dans 2 jours. Quand elle est venue, 2, 3, 4 jours, moi, je le croise. De loin, je la vois, c'est elle. Mais elle n'arrive toujours pas à m'appeler, à me dire je suis là. Et moi, je pense à ma tête. Mais j'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire ça? Comment tu peux te donner à un homme alors que tu ne l'aimes pas? Peut-être elle avait envie de faire l'amour avec une personne, donc elle m'a utilisé. Là, je me suis choqué. Je n'arrive même pas à comprendre. Je suis un homme. Je peux avoir n'importe quelle fille ici à Bayonne. Et puis, il y a plein de filles qui courent derrière moi. Mais il ne m'intéresse pas, ces jeunes filles-là. Quand je t'aime pas, je ne peux pas faire des trucs avec toi. Elle ne m'a parlé plus, je ne la parle plus moi aussi. Elle ne m'appelle plus, je ne l'appelle plus. Et après, j'entends que j'ai violé une jeune fille.
je suis troublée par la version de Salif. La façon dont il raconte, les détails, tout sonne vrai. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser que si Salif était coupable, il se ferait oublier et ne serait pas là en train de répondre à mes questions. Il y a quelque chose d'autre. Il est temps de vous le dire. Salif est beau. Il est même extrêmement séduisant. Grand, athlétique, les traits fins. Il a ce genre de beauté classique qui fait dire aux racistes « Il y a aussi des noirs qui sont très beaux ». Sur la photo qu'il a prise avec Lucie, ils sont tous les deux souriants et émus, un peu timides, comme deux jeunes amoureux. Seulement, dans des messages envoyés à plusieurs personnes, Lucie écrit expressément que Salif l'a violée. C'est la seule des cinq qui dit ça d'ailleurs. Et puis, j'imagine que ça ne vous a pas échappé non plus, il y a cette histoire de douche, le scénario classique de la suite d'un viol. Et si Salif avait forcé le consentement de Lucie, finalement son sourire n'est peut-être pas si radieux que ça. Maintenant que je regarde mieux la photo, il me paraît même un peu crispé. Et la tête me tourne quand Salif me déclare qu'il a eu une aventure avec une autre femme de la bande. Cathy la mystérieuse, celle qui s'occupait de son dossier de demandeur d'asile.
Cathy aussi, c'était le début, quand j'étais venu début à Bayonne. On est devenu amis automatiquement. Elle m'appelle, je l'appelle. Si elle a besoin d'aller quelque part, elle m'appelle moi-même. Je l'accompagne. Supermarché, gauche à droite. Tout le monde nous voyait, on était des amoureux. Ça parlait un peu, quoi. Entre Salif et Cathy, c'est lousse, quoi. Il y a quelque chose entre eux. Ça se voit. Donc, c'est devenu l'habitude. On boit, des coups, on rentre à 2h, 3h du matin. Même s'il y avait fête de famille, nous tous, quand on part, moi et elle, on se retrouve toujours deux. Tout le monde rentre. Moi et elle, on rentre tout le temps ensemble. Je l'accompagne jusqu'à devant sa porte. Et moi, j'ai passé la nuit chez elle. Elle m'a dit, Salif, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas sortir avec toi. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que j'ai un copain qui est à Paris. Je ne suis pas une bonne fille. J'ai dit, ok, je comprends. Tu n'as pas une bonne fille, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai resté dans ma chambre, je réfléchis. J'ai réfléchi pendant toute la nuit. J'ai dit, mais cette jeune fille-là, elle est prête de s'embrasser avec moi bouche à bouche. Elle a fait l'amour avec moi une fois. J'ai dit, mais on est dans quel monde? Et là, j'ai pris mes propres décisions. Je suis un nègre, hein, mais je me respecte moi et je respecte tout le monde. J'ai dit, il faut que je la parle. Il faut que ça termine entre moi et elle. Parce que je ne veux pas qu'on m'utilise.
Elle était là le soir du bar?
Elle était là.
Et vous lui avez dit quelque chose?
Je n'ai rien dit, je l'ai vue, elle pleurait. Quand je l'ai vue, elle était la seule personne qui pleurait. Quand je l'ai vue, je dis peut-être elle s'est vengée elle aussi. C'était pour ça, Je ne sais pas.
À entendre Salif, on a l'impression que c'est juste un garçon un peu fleur bleue qui tombe amoureux trop vite et trop tôt et se fait briser le cœur. Mais de quoi Cathy se serait-elle vengée si c'est elle qui a manipulé Salif? Encore une fois, d'après des SMS que Cathy a écrits, je sais qu'elle affirme qu'elle n'a pas été violée par Salif. Elle va même plus loin. Elle dit qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec lui. En gros, si tout ce que dit Salif est vrai et que ces deux femmes mentent, il y a quelque chose d'inexplicable. Pourquoi sont-elles aussi en colère contre lui? Pourquoi vous pensez qu'elles ont fait ça, ces filles, si c'est pas vrai?
D'accord, je vous dis quelque chose. Coralie, elle n'aime pas les garçons. Pourtant, on était des amis. En fait, c'est Coralie qui a fait tout du Bayonne pour aller informer tout le monde que j'ai fait ces genres de choses. En fait, c'est pour cela que j'ai considéré ça, c'est la jalousie. Et puis, il y a une fois que Lucie m'a envoyé un message quand j'étais à Paris. Elle me dit, bon voilà, moi tu sais bien que j'étais invité seulement pour un ami, pour que tu dors. Je dis, mais moi je n'ai pas un problème de maison. Moi mon studio est cool plus que ta maison. Toi tu n'as même pas de lit. Moi j'ai tout dans ma chambre. Donc je n'ai pas besoin d'hébergement. Et puis si j'ai besoin d'hébergement, c'est pas toi qui vas m'héberger. Ça jamais. Elle a qu'une canapé. C'est le canapé là qui est le lit. C'est le lit qui est canapé.
Mais peut-être qu'elle voulait dormir avec vous, mais qu'elle voulait pas faire l'amour avec vous. Mmh.
C'est pas possible, ça.
D'accord. Attends, je vais vous dire quelque chose. Si tu invites une personne qui dort chez toi, là, je comprends. Si tu ne veux pas que la personne fait l'amour avec toi, dis-le-lui. Et elle-même, elle sait qu'elle n'a pas de lit là-bas. Elle n'a qu'une seule lit. Elle, elle a organisé ces choses-là pour qu'on couche ensemble. Je ne suis pas un enfant. Elle aussi, elle n'a pas un enfant. Elle veut juste dormir avec moi, pas faire l'amour. Quand j'étais couché, pourquoi elle prend là sa tête pour mettre ça dans mes bras? Pourquoi on s'embrasse? Elle accepte. Elle ne l'a pas obligé. On s'embrassait parce qu'on a voulu s'embrasser. On a fait l'amour la nuit là. Si c'était une fois seulement, là on peut dire voilà, c'était une erreur. Mais deux fois. On a fait l'amour aujourd'hui, le lendemain aussi j'ai dormi chez toi. On a fait l'amour deux fois. Parce que nous, les immigrants, ou bien nous les Africains, on n'est rien devant les Blancs. Mais arrêtez ces genre de choses. Arrêtez la racisme, arrêtez les jalousies, on arrête.
Bon, j'espère qu'on en saura plus. Je vais continuer l'enquête.
Dans le train du retour, je suis encore plus perplexe qu'à l'aller. Salif s'accroche à ce détail pour prouver son innocence. Il a été invité chez Lucie une deuxième nuit. Ils ont refait l'amour plusieurs fois. Mais je sais, grâce au témoignage de Caroline, que pour des raisons complexes, une jeune femme peut refaire l'amour avec son agresseur. Et puis, est-ce que Salif me dit la vérité? Pour l'instant, je n'ai que sa parole. J'aimerais bien parler à quelqu'un qui pourrait confirmer ou infirmer son témoignage. Et finalement, c'est Salif lui-même qui pense à Polo, son entraîneur de foot.
Polo, l'entraîneur là, il est président. Et je lui ai expliqué ça. Et maintenant, Polo, il est toujours avec moi. C'est une équipe. On touche, il m'aime, je le tiens.
Pour Salif, son équipe de foot, c'est sa famille. Alors, il ne doute pas une seconde qu'ils vont l'innocenter.
Il y a Polo qui m'a dit, bon voilà Salif, moi, je gère cette chose-là, je vais essayer de faire enquête sur ça pour savoir.
Alors, il faut me donner son numéro, je vais l'appeler.
Non, attends, c'est pour toi, monsieur là, je te donne qui va écrire.
Deux secondes, je vais chercher un stylo.
Ok.
C'était l'affaire Salif B, épisode 2, peut-on se faire justice soi-même? Une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Clémence Gross et mixée par Bastien Varigo. Merci à Salif et Caroline, à Jade Lingard et à Juliette Rousseau, à Gilles Lavanon pour la musique et Mali Jo pour l'illustration. La suite, épisode 3 et 4, jeudi et vendredi dans Les Pieds sur Terre et en replay sur tous les bons sites, les bonnes applis et surtout sur celle de Radio France. C'est Camille Richard, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Djeriwi, comment les oublier?